Paul Arène, le tort d'entrailles. Chapitre 1. Bon courage, Balandrin. Le soleil tombait et les rainettes avaient commencé leur chanson du soir lorsque l'abbé Mistre et Pierre Balandrin se rencontrèrent dans le chemin étroit et naturellement ferré de cailloux qui va de Canteperdry au château d'Entrailles. L'abbé Mistre était abbé et, par occasion, marchand de biens. Balandrin, cordonnier comme son père, s'était par goût des champs jeté dans les exploitations agricoles. L'abbé Mistre était maigre et long, Pierre Balandrin gras et court. L'abbé montait au château d'Entrailles, Balandrin descendait à la ville. L'abbé, tout guilleré, tenait sous le bras son bréviaire, plus un rouleau de plans et d'actes qui ne le quittait jamais. Balandrin, suant et rendu, pauvre Balandrin, portait en travers du cou une pioche et sur le dos un sac de pois secs. Balandrin blêmit en voyant l'abbé Mistre. L'abbé Mistre eut un bon sourire. « Bien le bonjour, monsieur l'abbé !»« Bonjour, Balandrin, bonjour ! Mais, Sartibois, te voilà chargé. C'est ta récolte que tu portes ?»« Des pois, monsieur l'abbé, tout ce que j'ai eu !» répondit Balandrin d'un air piteux en faisant sonner ses 15 poignées de pois secs au fond du bissac de toile grise. Mais l'abbé Mistre ne voulut pas voir la mine affligée du pauvre homme. « La culture, c'est le diable, monsieur l'abbé. Jamais on ne saura ce que j'ai enterré d'argent dans ce malheureux coin du plan d'Entrailles. »« Ça te profitera, Balandrin. »« Dieu vous entende, monsieur l'abbé. » Quand vous m'avez vendu la parcelle, je croyais cependant avoir bien établi mon compte. Tant pour le premier paiement, quelques écus pour défricher et mettre en état, les petits bénéfices de ma boutique, ce que j'épargnerais en café, en goûter d'auberge, et tout calculé, je me voyais déjà le maître d'un joli bastidon, avec un bout de treille et un petit champ autour, où je pourrais aller, mon carnier me battant le dos, et un col de bouteille dépassant, crapauder un peu le dimanche. Païen de Balandrin. Merci, monsieur l'abbé. Seulement, s'il faut tout vous dire, j'avais eu le tort de compter sur la récolte. La récolte n'arrive guère. Nous ne savons pas, nous autres artisans, faire suer la terre comme ceux de la Costa et des bas quartiers. Et puisque voici l'échéance du 15, si vous vouliez... Déjà 6 heures, s'écria l'abbé en regardant sa montre que décorait une belle clé en variolite. Déjà 6 heures, adieu Balandrin. Monsieur l'abbé, adieu Balandrin et bon courage. Et monsieur l'abbé, d'un pas alerte, malgré les cailloux ronds et la montée, repartit vers le château d'Entrailles dont on apercevait le colombier. Balandrin, lui, tourna du côté de Canteperdry, furieux, harassé, quoiqu'il ne portât pas grand-chose, et grommelant entre ses dents, « Bon courage, c'est facile à dire !» Le tonnerre l'enlève avec son bon courage. Chapitre 2. Balandrin rencontre un vieux qui lave ses guêtres. Sur le chemin qui coupe en biais la tranche quasi perpendiculaire du plateau d'Entrailles, à mi-hauteur, dans un fouillis de buis et de chéneaux, une grande source sort des roches. Un âne buvait à cette source et un vieux paysan sec et tanné, que le temps avait fait couleur de terre, y lavait ses guêtres soigneusement. « C'était donc vous, père antique ?»« Ah, te voilà, Balandrin, gros propriétaire !» fit le vieux avec l'accent railleur, mais railleur sans malice, qui est la façon de parler ordinaire aux vrais paysans provençaux. « Et que te disait le curé ?»« Sans doute, monsieur Blasi est prêt à vendre, et tu retenais le château. »« père antique, ne vous moquez pas du pauvre monde !»« De toi, Balandrin, j'aurais tort, tu es un brave homme !» reprit le père antique en tordant ses guêtres, puis les étendant sur le bas de l'âne pour qu'elles s'échassent en chemin. « Seulement, vois-tu, j'ai une idée. Harry, bourriquet, Harry ! Qu'il se fait tard. J'ai une idée, c'est qu'à vous autres, artisans, la terre ne vaut rien et qu'avant peu, ton bastidon finira par te manger la boutique. » Le fait est, père antique, que dans ce maudit carré de terre, j'ai enterré déjà force beaux écus. « Ce n'est que demi-mal si la terre te reste. »« Si elle me reste, père antique. »« Balandrin, je vais te dire. »« Eh bien, sais-tu pour qui tu travailles ?»« Tu travailles pour l'abbé Mistre. »« Tu n'es pas le seul, console-toi. »« mais cela nous fait rire, nous autres paysans, quand il se promène là-haut, canne à la main, dans les parcelles. Je le regardais hier. Il ne s'est arrêté, le saint homme, ni à mon champ, ni à celui de Mayenque, ni à celui de Figuières. C'est à nous, ça, bien payé. L'abbé Mistre n'a rien à y voir. Toi, Balandrand, ton affaire est autre. Tu dois, Balandrand, tu dois. Le champ que tu travailles n'est pas tien. Fonds tes écus, saigne-toi et peine. Coupe les buis, abat les chênes, attaque les rochers avec la poudre, défonce le sol à 6 empans. Fais des fourneaux, brûle le gramen qui, la peste, toujours repousse. Hardi, arrache les grosses pierres, construis-en des murs, retourne-toi les ongles. Passe la terre et la repasse, rends-la fine comme sable et que pas un caillou ne reste dans cette ermasse qui, d'abord, n'était qu'un caillou. Monsieur Mistre est là qui te surveille. Courage, Balandrand, courage. Encore 6 mois, encore 1 an. Puis, une fois la terre peignée, la vigne plantée, je viendrai, moi, l'abbé, te faire souvenir que tu dois encore. Le notaire qui t'a prêté l'argent, car tu emprunteras Balandrand. Le notaire, un ami de l'abbé, te réclamera d'un coup toutes les créances. Capital, intérêt, papier timbré, le diable et son train. Comment payer ? Ruiné, perdu, tu ne le pourras. Trop heureux alors si l'abbé, qui est charitable, consent à des arrangements, fait la pointe de ce que tu dois et veut bien reprendre, à prix de vente, sa cigalière dont tu auras fait un jardin. Balandrand marchait tête basse, comprenant, hélas, toute la justesse des calculs sarcastiques du vieux paysan. Pourtant, arrivé au pied du rocher, devant la porte gothique de la ville, au moment de quitter le père antique, une espérance subite lui vint. La nuit tombante l'encourageait. « Père antique, dit-il d'une voix étranglée par l'angoisse, vous avez raison, je suis un homme perdu, l'abbé ne m'épargnera point. Et tenez, dans 3 jours, c'est 300 francs qu'il faut que je paie. Vous me connaissez, conseillez-moi, je trouverai des garanties. » Le père antique, le devinant, lui dit qu'en toute autre circonstance, il aurait pu, quoique peu riche, faire cela pour le fils d'un ami. Mais les amendes n'avaient pas donné, le blé se vendait pour rien. D'ailleurs, cadet grandissant, il devenait prudent, nécessaire, de se réserver quelques écus pour le jour, et ce jour ne pouvait tarder, où le château d'Entrailles mis en vente, il faudrait acquérir, à l'intention de ce cadet, gaillard comme père et mère, et qui ne savait que faire de ses bras, n'importe quoi, un coin de terre. Cela dit, le père antique fit tourner l'âne et s'engagea sous la voûte noire qui conduit dans les bas quartiers. Chapitre 3. La maison du Rioux est en joie. Laissons l'infortuné Balandrand rêver de protée et de saisie sur son oreiller qu'une salutaire terreur embourbe de papier timbré, et suivant le père antique, s'en allant, joyeuse et le dos cassé, à travers les passages sombres, les couverts et les ruelles en escalier qui constituent le quartier bas, le quartier agricole de la ville. C'est l'heure tranquille où, tout travail fini, et quelques instants de jour clair restant encore, une fois l'âne et la chèvre rentrés, le bissac vidé, la pioche pendue, les paysans, assis au grand air devant la porte, sur les marches du petit perron, attendent la soupe que leur femme prépare et se taillent le pain avec lenteur. « Adiosas, père antique, vous rentrez bien de vespre, père antique !» Et le père antique, tout en poussant son âne, répondait « Bonsoir, un tel. Bonsoir, une telle. » Mais sa pensée n'en trottait pas moins. Le père antique, tandis qu'il lavait ses guêtres, avait vu l'abbé Mistre monter le raidillon. Il ne lui avait rien dit, n'aimant pas les prêtres. Pourtant, il avait remarqué son air particulièrement empressé, le grand rouleau de papier qu'il portait sous le bras, et malgré lui, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ces choses. Monsieur Blasi, le propriétaire du château d'Entrailles, serait-il ruiné? Et l'abbé Mistre, comme il a fait pour tant d'autres, va-t-il l'exécuter et mettre le tort le plus haut en parcelle? À cette idée, le vieux paysan salivait et, songeant à ses 2 sacs d'écus en réserve, au beau terrain qu'on morcellerait, il choisissait d'avance et ne se sentait pas d'aise. Puis, réfléchissant, il se disait que cela était impossible. Monsieur Blasi, évidemment, se trouvait dans de mauvais draps. La mise en vente de quelques terres, son intimité avec l'abbé Mistre, tout l'indiquait. De plus, maints regards échangés entre le prêtre marchand de biens et maître Chabre le notaire n'avaient pas échappé à cet œil aiguisé de paysan. Mais, d'autre part, le père antique savait bien, il le savait, que l'abbé Mistre jouait double jeu dans cette affaire. Il savait, ayant surpris un mot de cela, certains soirs qu'il taillait des arbres, que ce n'était pas précisément la ruine du brave Blasi qu'on cherchait. Il y avait autre chose dans le plan de l'abbé, une sacrée idée de mariage, soupçonnée du seul père antique, qui pouvait au dernier moment arranger tout, empêcher la vente. Le père antique, d'ailleurs, n'en avait jamais rien dit à personne, si ce n'est à Cadet, son fils, la nuit de Noël, après avoir bu un doigt de vin cuit. Ainsi avait-il en fin de compte l'air de méchante humeur, le père antique, lorsque, arrivé rue du Rioux, il tira le loquet de sa porte, flanqué comme contrefort de deux très gros tas de fumier. « Oh, Cadet, Cadet !» cria-t-il en posant dans un coin son bissac et sa pioche. Mais Cadet ne répondit pas. Ce cadet-là était un gaillard de 14 ans, fort comme à 16, et qui, depuis la mort de sa mère, gouvernait tout dans le ménage. « Cadet, trempe la soupe, il ne m'aura pas entendu !» pensa le père antique en attachant l'âne à la crèche. Mais soudain, l'âne se mit à braire, étonné. L'âne broyait le foin à pleine mâchoire dans cette maigre crèche dont il avait si souvent, après des repas moins splendides, rongé le bois pour son dessert. « Encore un tour de cadet. Cadet devient fou !» murmura le père antique. Et soigneusement, il enleva la pitance, dessous le bec du pauvre âne décontenancé. Un bais joyeux se fit entendre. Le père antique leva la tête et vit sur un amas de fagots la chèvre perchée, broutant à même les feuilles sèches et prête à dévorer en moins d'une heure sa provision de tout l'hiver. Le père antique jura et rattacha la chèvre à distance. Mais quoi, dans la loge à cochons, loge sans toit, bâtie sous l'escalier, des bruits singuliers s'entendaient. Se haussant par-dessus le mur bas, le père antique vit son goré qui, plongé dans l'auge, travaillait du groin et reniflait et triturait goulûment les plus belles pommes de terre de la récolte. Cette fois, le père antique n'y tint plus. Il se précipita par l'escalier tournant et noir qui s'ouvre en un coin de l'étable. « Ah, cadet, ah, trompe des dieux !» s'écriait-il. Dans la chambre, il vit table mise, nappe blanche et service de vieux moustier. Un feu clair brillait et Cadet, assis sur un escabeau, d'une main tournait la broche, tandis que de l'autre, il arrosait un poulet en train de roussir. « Asseyez-vous, père, le dîner va être cuit, » dit Cadet. Mais voyant une grande colère briller dans les yeux du vieillard, philosophiquement, il ajouta « Père, ne vous fâchez point, c'est Estève qui paie la fête. » Chapitre 4. Le roman d'Estève. Estève, neveu du vieil antique et, dès l'enfance, orphelin de père et de mère, était peintre, quoique né de paysan. Sa vocation se déclara dès le collège. Chez nous, les gens des bas quartiers, pour peu qu'ils soient aisés, envoient volontiers leurs enfants apprendre un an ou deux, sans but déterminé, quelques bribes de latin combinées avec quelques notions d'arpentage. Sorti du collège, un dessin d'Estève, représentant je ne sais quel pauvre diable, mendiant et fou, du nom de l'amitié, avait mis tout Canteperdrie en rumeur. Le capitaine du génie, charmé, voulut employer le jeune artiste dans ses bureaux de la citadelle. Puis, s'étant pris d'affection pour lui, il décida le père antique. Le père antique déroula la grande bourse en toile et le neveu partit étudier la peinture aux écoles d'Aix. Logé chez un cousin aubergiste à la bourgade, Estève ne coûtait pas davantage que s'il eût été apprenti. Et le vieil antique, qui pour rien au monde n'aurait consenti à faire du fils de sa sœur un curé, un droit réuni ou un poète, le vieil antique, épris avant tout de travail et de réalité, l'avait vu sans trop de déplaisir entreprendre un métier quasi manuel à son idée. Car, tout en ayant pour les œuvres d'Estève un respect instinctif et comme une admiration vague, le rude vieillard ne distinguait guère ce qui pouvait séparer son art de l'art ingénieux du peintre vitrier. et tandis que le neveu, dans la bonne ville du roi René, partageait son temps entre ses travaux de jour à l'école de dessin et les traditionnelles battues aux chats menées la nuit, avec corps et flambeaux, en compagnie d'étudiants, à travers les rues herbeuses, l'oncle, tout en passant son champ, tout en binant sa vigne, voyait dans un rêve, sur la grande place, une belle boutique, peinturlurée de losanges aux vives couleurs, et, debout, en haut d'une double échelle, Estève qui peindrait, au milieu de la stupéfaction générale, des attributs et des enseignes comme Canteperdrix n'en aurait jamais vu. Estève avait laissé son oncle croire ce qu'il voulait et continuait tranquillement ses peintures à Marseille l'hiver et, dans la belle saison, à Canteperdrix, où il s'était installé un atelier dans le grenier même de l'oncle. Les tableaux d'Estève, nets, heurtés, ses aquarelles claires, paysages méditerranéens blancs et bleus, gravier de la Durance, aveuglant sous le soleil et piqué de quelques touffes d'osier maigre et de tamaris, landes de galets rouges, torrents roulant dans les rochers gris, Estève peignait tout cela, et tout cela, ma foi, se vendait. Le cercle des beaux-arts poussait Estève. Une compagnie maritime lui avait confié la décoration d'un paquebot. Bref, Estève gagnait sa vie, et l'oncle, étonné d'abord, mais voyant que l'argent tombait, finit par prendre son parti de ce métier bizarre auquel il ne comprenait rien. « Parfaitement, c'est moi qui paie la fête !» s'écriait le peintre en remontant de la cave. Il avait des araignées au chapeau et dans chaque main une vieille bouteille. « Les bêtes mangent, régalons-nous. Je veux que ce soir, toute la maison soit en joie. » Et pourquoi Estève voulait-il que toute la maison fût en joie? Pourquoi avait-il lâché la chèvre, prodigué les pommes aux cochons, le foin à l'âne et mis les tables sans dessus dessous? Estève allait se marier. Avec qui? Avec Mademoiselle Jeanne, la propre fille de M. Blasi, propriétaire du château d'Entrailles. Tu es fou, garçon! Oui, pour sûr, la tête t'aura viré, murmurait le père antique, plissant avec incrédulité son petit œil clair qui illuminait pourtant l'espérance. « Épouser Mademoiselle Blasi, toi, un fils de paysan ?» Mais elle a refusé des percepteurs, des notaires. Puis, regarde un peu ta tournure, cette veste de velours, c'est guêtre. Et le père antique, pour la première fois de sa vie, remarquait non sans amertume le débraillé pittoresque de son cher neveu. C'est qu'en effet, le mariage d'Estève, ce faisant, changeait bien des choses. L'abbé Mistre, alors, rompait avec M. Blasi, le traquait pour ses hypothèques et le château d'Entrailles se vendait. Or, voici l'histoire qu'Estève raconta. Elle est simple. Roulant la campagne avec son attirail de peintre, souvent il avait rencontré M. Blasi, marcheur intrépide et grand chasseur. On se lia. Estève fut présentée au château et vit Mademoiselle Jeanne. Estève et Jeanne, naturellement, s'aimèrent. Et comme Estève, depuis 3 mois, hésitait toujours à faire sa demande, comme Mademoiselle Jeanne, sous un air d'apparente douceur, cachait une réelle énergie, il avait été décidé entre les deux amoureux que, pour en finir, Mademoiselle Jeanne, le soir même, devait, au nom du trop timide Estève, demander sa propre main à son propre père. « Quelle brave fille, cette Mademoiselle Jeanne !» disait le vieil antique. « Vive comme l'eau, et franche, et point fière. Le père fera ce qu'elle voudra. Brave homme aussi, ce monsieur Blasi, un peu imaginaire, par exemple, avec ses sarcleuses, ses faucheuses, et ne s'entendant guère à la conduite des biens. Mais brave homme, ce n'est pas lui qui, comme tant d'autres beaux messieurs, passerait à côté de vous sans rien dire. Au contraire. Eh bien, père antique, cela se fait-il ? Un peu dur, monsieur Blasi, la terre n'a pas son sang. Il nous faudrait quelques gouttes de pluie. » Et le père antique riait et buvait, s'exaltant. Mais Estève ne l'entendait plus. Son rêve était à Entrailles. Il voyait le petit château à tournure rustique et féodale, les granges, la cour, le colombier. Il entendait dans son bassin de pierre froide la fontaine claire chanter. Il pensait à Jeanne. « Allons, les enfants, à la couche !» dit tout à coup le vieux en décrochant du mur le calène huileux de forme romaine. Éveillée subitement, Estève se mit à la fenêtre et regarda. La rue était déserte. porte close, point de lumière, et pour tout bruit, l'appel mélancolique du crieur d'eau qui, soufflant dans une coquille marine percée par le bout, s'en allait à travers les quartiers paysans, annonçait l'heure des arrosages. Chapitre 5. Le château d'Entrailles, le plan, le tort. Entrailles, le tort, deux mots qu'il faudrait expliquer. Car si les Français connaissent de leur langue ce qu'on peut en apprendre dans les livres, il en est une, non moins belle, que, malheureusement, ils ignorent, ou que, plutôt, ils ont désapprise. C'est la langue terrienne et cadastrale, celle des champs et des aïeux, laquelle, d'un mot spécial, note tous les accidents de terrain, tous les détails du sol, tous les aspects de la patrie, et qui, une fois bien connue, dispenserait d'inutiles descriptions les auteurs de récits rustiques. Charles Nodier, vers 1840, enseignait à l'Académie quelle espèce de vallée est une combe. Alpin, au lieu d'être du Jura, il nous eût dit ce que signifiait Entrailles, ce qu'est un tort, ce qu'est un plan, et pourquoi il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Aucun paysan ne s'y trompe. Entrailles, inter aquas, est forcément une pointe de terre entre deux cours d'eau. Un plan est une plaine surélevée, dominant vallées et rivières. Tel le plan d'Entrailles dont nous parlons, situé à 100 mètres au-dessus des limans de Buèche et des graviers blancs de la Durance. On appelle Thor un plateau moindre, à côté au plan, comme un palier d'escalier le serait à une terrasse, et quand il y a, sur le flanc de la vallée, plusieurs de ces gigantesques paliers, il se distingue par la dénomination de Thor le plus haut, Thor du milieu, et tort le plus bas. Entrailles, au-dessous de son plan, n'a que deux torts. Sans être de grands savants, nos paysans de Cantepèdrie ont peut-être trouvé l'explication géologique de ce plan d'Entrailles et des deux torts qu'il domine. Est-ce pure ingéniosité ou souvenir de quelques traditions lointaines? Mais tous les paysans de Cantepèdrie vous raconteront qu'autrefois, un lac immense, barré par le roc de la Baume et celui de Chambrançon, alors soudé, et dans lequel se perdaient les deux rivières, couvrait tout le pays, par-dessus Entrailles, au nord de la ville. Puis un jour, sous le poids, le barrage avait cédé. Une brèche s'était ouverte, et les eaux se précipitant, l'immense déversoir s'abaissant, le niveau du lac s'était abaissé aussi, laissant à découvert une première plaine. Des siècles plus tard, nouvelle brèche. Une seconde plaine apparaissait, le tort le plus haut cette fois, puis le tort le plus bas, jusqu'à ce que, dans une dernière convulsion, la vallée tout entière eût pris sa forme actuelle. Et le fait est qu'il serait difficile d'expliquer par une autre hypothèse la formation de ces trois plateaux échelonnés, leurs surfaces mathématiquement horizontales et parallèles, la coupe strictement perpendiculaire de leurs flancs taillés droits comme d'immenses murs, et la quantité de galets roulés, pareils à ceux de la Durance, que l'on y rencontre partout. De temps immémorial, la vallée et le plus bas tort appartenaient aux paysans de Cantepèdrie. Champs étroits pour leurs bras, et qui, à les nourrir, suffisaient à peine. Aussi regardaient-ils d'un œil d'envie le tort le plus haut et le plan. Avant 89, Entrailles, plan et tort, étaient fiefs, avec droit de colombier et de garenne, ainsi que le témoignent encore quelques trous à lapin, entre quelques maigres touffes de lavande et une construction ayant apparence de tour, plantée en avant du château, sur la pointe extrême du promontoire, tour que l'on prendrait pour un donjon féodal, vu son site escarpé, sa mine bourrue, sans la triple ceinture de briques jaunes vivement vernissées qui l'enserrent à mi-hauteur, et furent placés là, évidemment, pour garantir les pigeons seigneuriaux des escalades de la fouine. Vendu comme bien national en 1994 et acheté par un riche bourgeois, le tort d'Entrailles n'avait pas changé de destin en changeant de propriétaire. Le domaine, trop vaste, restait peu ou point cultivé. Il aurait fallu des mille et des mille écus pour le mettre en état. Parfois, le grand-père de M. Blasi, parfois son père y avait songé. Mais les premiers arbres coupés, les premiers tombereaux de cailloux enlevés, il s'était bien vite arrêté devant la dépense. Les paysans de Cantepèdrie soupiraient, voyant tant de bonnes terres perdues. « Ah, si c'était la nôtre !» disait-il. Mais quelle joie quand les maîtres d'entrailles, un peu gênés, se décidaient à vendre un coin de leurs biens, quand les petites affiches blanches, études de maître Bénet, ventes par licitation, annonçaient la grande nouvelle. Alors partout dans Canteperdry, de la Costa Bourreno, Aurioux, rue Chapuzy, à la Pousterle, chacun par avance choisissait une parcelle selon son cœur, et ces soirs-là, dans les vieux quartiers, vous auriez pu voir bien des Calens briller à travers les étroits carreaux passer l'heure, vous auriez pu entendre, quand tout le monde était censé endormi, les tiroirs s'ouvrir discrètement et les écus sonner sur la planche en noyer des familiales tables fermées. Ces mises en parcelles de gros domaines deviennent plus communes chaque jour. Les anciens tenanciers, avocats, médecins, notaires, après s'être longtemps entêtés à garder des terres qui les ruinent, ont fini par se fatiguer, et le moment n'est pas loin où tout Canteperdry appartiendra aux paysans. Nos paysans savent cela et ne se gênent guère pour déclarer que la terre doit être à qui la travaille. Sur la grande place, l'été, à l'ombre des ormes, au soleil, l'hiver, le long des remparts, et quand il pleut, dans le vestibule de la maison commune, les gens de Canteperdry ont coutume de s'assembler, passer midi, tous les dimanches. Ils causent du temps, des récoltes. C'est là que s'adressent les propriétaires qui ont des travailleurs ruraux à louer. Grève inconsciente, mais d'autant plus terrible, et continuée depuis des siècles. Sur un terroir en pente, rebelle à la charrue, où les bras font tout, le triomphe tôt ou tard devait rester aux bras. Il n'y a plus que les vieux et les très vieux qui se souviennent du temps où le paysan se louait 15 sous par jour. C'était le paradis des propriétaires. On les saluait de loin et très bas. Chaque matin, l'homme de confiance, le canier, debout devant la grande table, remplissant les fiasques de piquettes aigries et plongeant une fois pour chacun la cuillée de bois dans le pot plein de fromage fermenté, « Toi, père, va-t'en à toutes heures ensemencer les luzernes. Toi, jaume, à Péressous, aux égatières. 15 sous par jour. Aussi, mes amis, quelle vie! Le soir, au retour des champs, quand toutes les cheminées fument, ce n'était pas une fumée bien grasse qui montait sur les bas quartiers de Canteperdry. Par bonheur, les paysans, de père en fils, avaient conservé chacun leur lopin de terre. Et ce lopin de terre, si maigre qu'il fût, les affranchit. « Ayant fait vivre nos vieux, lui dirent-ils, tu nous feras vivre. » Ils se refermèrent sur lui et se mirent à l'aimer d'un grand amour. Tout en travaillant chez les autres, c'est à sa terre que le paysan songeait. La journée finie, s'il était dans le quartier, ses bras se retrouvaient pour lui donner, à cette chère terre, quelques coups de pioche. On vit des enragés qui travaillaient ainsi, de nuit, à la lune. Le dimanche, jusqu'à midi, pas un n'y manquait. Au bout de l'année, tout le monde avait vécu. Du foin dans le grenier, du vin à la cave, autour de la chambre des sacs de blé en procession, et les pièces de 15 sous des propriétaires restaient intactes. Les propriétaires pouvaient venir maintenant. « C'est 20 sous qu'il nous faut, sans quoi nous travaillons pour nous autres. » Puis 25 sous, puis 30 sous, puis 40, avec une bouteille de bon vin en plus. Voilà comment les paysans s'enrichirent, comment les propriétaires se ruinèrent, et pourquoi les paysans s'achètent du bien avec l'argent des propriétaires.